avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur votre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un zoom sur les coteaux d'Ancenis, la découverte des 100 meilleures cartes de vin de France, et oui, une nouvelle façon de sentir les arômes avec un diffuseur connecté, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Piau, Sylvie Tonnerre et Florence Corbalan. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, il en fallait une. Une voix masculine dont on ne se lasse pas. Philippe Forbach, bonjour Philippe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Allez, on commence cette émission avec vous Hélène Piau. Donc vous êtes du magazine Régal et puis on a un invité, Jean-Luc Dresser. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à tous.
Jean-Luc, vous avez une chance de dingue. Vous vivez au cœur du Minervois. Vous êtes loin de Montpellier, Carcassonne, Narbonne, tout ça ou pas?
Ah, on est plus près de Carcassonne et Narbonne que de Montpellier. Hein.
Combien de kilomètres alors, dites-nous de Carcassonne, combien de kilomètres hein?
35 de Carcassonne, 35 de Narbonne, sur les coteaux, on domine la vallée de l'Aude.
Vous savez que c'est quasiment la plus belle région du monde, là, vous êtes. Hein. Vous êtes consciente de ça ou
après,
pas?
C'est bien pour ça qu'on y est venu. Hein,
bon, Hélène.
Alors, effectivement, 35 km de Carcassonne, de Narbonne, 35 km de la mer, c'est le mât Pomarel. Comment vont Pauline, Marion et Hélène?
Alors, nos trois filles vont très bien. Hein, donc, ce sont de jeunes adultes maintenant qui sont rentrés dans la vie professionnelle. Qui ne sont pas sur le domaine pour le moment, mais qui sait, dans les années à venir, il y en aura peut-être une qui nous rejoindra.
Donc chacune a donné la première syllabe de son nom au domaine que vous avez créé.
Et le mas Pomarel,
c'est
alors,
ça.
PAU, Pauline, c'est pour Pauline.
Marion et Hélène.
Oh là 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 là.
Très joli prénom d'ailleurs, Hélène.
C'est une idée de mon épouse, donc...
Voilà. On embrasse Véronique, c'est Véronique, non?
C'est cela, oui, tout
voilà.
À fait.
Voilà, bon, enfin, on va terminer cette émission spéciale prénom pour
c'est
attaquer
ça.
Le vin, peut-être un petit peu, là.
On va parler un petit peu de vin, quand même. Donc, effectivement, vos trois filles, elles étaient ados quand vous les avez embarquées dans cette création de domaine, il y a une quinzaine d'années. Vous n'étiez quand même pas très loin du vin auparavant. Vous étiez enseignant, directeur d'un lycée viticole.
J'étais enseignant, en effet, j'ai fait un début de carrière dans la formation, enseignant 10 ans. Et directeur d'un lycée, non pas viticole, mais forestier.
Ah.
Donc, des plantes sont un peu plus grandes.
Oui.
Donc, voilà.
Ah, mais si on ne taille pas la vigne, ça devient une forêt, non?
Enfin, c'est Philippe
Forbach, non? Vous confirmez que si on ne la taille jamais,
oui.
La vigne grandit partout,
ah ben,
non?
C'est clair.
C'est une liane. Hein.
Liane.
Ouais, c'est une liane.
Ça occupe,
bah,
ça occupe
oui.
L'espace. Mais la nature, bien sûr, horreur du vide.
Après les prénoms et les lianes.
Alors, ce domaine, donc, fait désormais une dizaine d'hectares.
Exactement.
Et alors, racontez-nous cette aventure d'une quinzaine d'années maintenant.
Au bout de 20 ans dans le monde de la formation, j'avais envie de tourner la page. Donc, j'ai pris un congé formation, j'ai fait un diplôme d'œnologue pour compléter la formation d'agro. Et j'ai réalisé une passion que j'avais depuis toujours, hein, donc, qui était de mener une activité de A à Z. Et tant qu'à faire, choisir un produit... qui est épicurienne, noble et qu'on aime partager. Le vin, c'est quelque chose qui laisse de multiples possibilités.
Vous êtes en labellisation HVE3, haute valeur environnementale, donc c'est le niveau supérieur. Donc vous le bichonnez ce vignoble avant de bichonner vos vins, parce que vous avez coutume de dire, bah, comme beaucoup de vignerons, mais c'est toujours à souligner que tout commence à la vigne.
Hein. Ouais, exactement, et quand on est dans le sud... On ressent quand même de façon assez forte les évolutions climatiques, hein, et avec des grosses pluies à certains moments et à l'inverse de fortes chaleurs. Et donc il faut, je pense, dans l'avenir, il faudra encore plus qu'aujourd'hui bichonner le végétal pour avoir toujours des vins équilibrés, agréables et faciles à boire.
Alors parlons-en de ces vins. Combien de cuvées?
On a 8 cuvées aujourd'hui, donc en 12 ans, on n'a pas chômé, on a 8 cuvées. Une en rosé, 2 en blanc et surtout 5 en rouge, puisque le Minervois, c'est avant tout des rouges quand même.
Donc avec les cépages classiques de la région, Mourvèdre, Carignan, Syrah, Grenache, Carignan, voilà, Cabernet.
Et donc ça fait combien de bouteilles par an au total, Jean-Luc?
35-40 000 par an à peu près sur l'ensemble des cuvées.
Et vous les vendez comment alors? Vous avez beaucoup de copains?
Alors, c'est l'avantage d'être venu au vin après avoir eu une carrière dans d'autres métiers, hein, donc et à un certain âge, j'ai encore pas mal de copains qui ont fait des carrières aussi, et quand je me suis lancé, ils ont
été sympas, quoi.
Mon réseau m'a permis d'écouler assez rapidement une partie importante de la production, et puis ça continue. Donc on a un gros fichier client particulier, et ensuite on a un distributeur qui nous écoule du vin sur la région toulousaine et en Midi-Pyrénées, et après un peu en Alsace, un peu à l'export. Pas beaucoup à l'export, on va développer ce côté-là dans les années à venir.
Alors, vous êtes d'autant plus ouvert aux nouveaux clients que on parlait de nos tourismes dans notre émission hier. Vous accueillez les clients 7 jours sur 7 sur rendez-vous, mais c'est important de le signaler parce que parfois on est le week-end dans la région, c'est pas
y
trop.
Y compris le 24 décembre, voilà. Le 25 décembre et le 1er janvier, Jean-Luc ou pas ?
Mais c'est pas grave, on est en février.
On était là, effectivement. Bon, les clients, le 1er janvier, on n'en a pas eu, à vrai dire, mais le 25 décembre, il y en a qui sont passés.
Ils étaient fatigués.
Oui, ils étaient fatigués. Oui,
je pense qu'ils étaient fatigués de la veille. Oui.
En tout cas, voilà, on note qu'on peut aller au MAP au Marel si on est dans l'Hérault le week-end.
Il faut y passer. Alors, avant le coup de cœur d'Hélène, Jean-Luc Ditou, il y a un élément important, c'est le bouchage des bouteilles. Là, vous travaillez comment ?
Ah ben, on utilise depuis le début des bouchons Diam, hein, donc c'est-à-dire bon, des bouchons technologiques. Qui apporte toute garantie par rapport au risque de déviation organoleptique, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue. Et ensuite, c'est vraiment le prolongement du travail de vinification. Hein, donc,
oui, c'est important.
On a des bouchons adaptés à chaque type de vin, et c'est tout en étant en liège et avec des lièges.
Une sécurité à 100%, Jean-Luc, on va dire. Hélène Piau, alors le coup de cœur ?
Mon coup de cœur, c'est le Mourel Rouge à Minervois-la-Livinière 2017. Les cépages dont nous avons parlé, hein, Mourvèdre, Syrah, une petite pointe de Grenache. Un premier nez groseille, framboise, très vite un peu de cuir et de vanille. Et puis alors en bouche, les tanins sont déjà ronds.
Ah, c'est déjà fondu parce que 2017, c'est un bébé quand même.
Eh bien oui, c'est un bébé. Puis Minervois-la-Livinière, on se dit, ça va être costaud, ça va un peu m'arracher les gencives. Ouais. Eh bien non, pas du tout. Velouté, très réglissé jusqu'en finale, beaucoup de matière et d'élégance. Moi, je l'aurais bien vu sur un roast beef saignant. Pour tout vous dire, je l'ai bu tout seul. Mais parce que, fin de soirée, j'avais envie d'un petit verre de vin tranquille à la cool. Et ça peut faire le job aussi, un petit vin tout seul. Donc, justement, on n'est pas obligé de forcément sortir.
D'inviter Georges Clooney à dîner, quoi, c'est ça ?
Eh bien, il venait de partir, en fait.
Il venait de partir, quoi.
Donc, pour m'en remettre, je me remets.
Alors, combien ça vaut la bouteille ? Combien ça coûte une bouteille ?
Ça vaut 12 euros et c'est vraiment pas cher pour un grand plaisir. Vraiment.
Bravo, bravo. Un site internet, peut-être, Jean-Luc, pour prononcer les mots chez vous ?
Oui, bien sûr. Donc, mas.pomarel.
Non, si je peux me permettre, c'est mas-pomarel.fr.
Ah, pardon, oui, vous voyez, même.
C'est troublant comme émission.
mas-pomarel.fr.
Bon, parfait, vous êtes parfait, Jean-Luc, ne changez rien. Merci beaucoup, Hélène. Merci également, vous, Jean-Luc. Invino Sud Radio, on retrouve maintenant Philippe Forbrac, président de l'Union de la Sommelier Française, pour nous parler des coteaux d'Ancenis. Alors, c'est où, là ? Parce que, bon, Minervois, on voit à peu près. Ancenis, on n'est pas loin de Nantes, non ?
Si vous voyez Nantes, ben voilà.
C'est Nantes.
Vous voyez Angers. C'est entre la Loire-Atlantique, le Maine et Loire, effectivement, le long de la Loire, sur des coteaux situés entre 20 et 70 mètres d'altitude. C'est pas le Mont Blanc, hein. Mais il y a quand même une petite pente qui permet effectivement de créer ces fameux coteaux, puisque c'est dans l'appellation coteau d'Ancenis, autour de la ville d'Ancenis. C'est une appellation qui est pas loin du Muscadet et qui a la double influence finalement, à la fois du pays nantais réellement et le Muscadet, puisqu'on n'est pas très loin notamment d'un village que j'aime beaucoup qui est le Cru Clisson, qui produit sur des granites des muscadets juste incroyables. Et de l'autre côté, influencé par les chenins de Angevin, puisqu'il y a quelques producteurs d'ailleurs des vins du Layon, de Savenir, etc., qui ont aussi quelques vignes du côté d'Ancenis, historiquement parlant. Donc c'est vrai que cette double influence est très intéressante. En termes de sol, on a des schistes, comme souvent dans la région. Moins de granit, effectivement, que du côté de Clisson. On a des micaschistes, du gneiss et des fameuses roches vertes qui donnent effectivement du tempérament à ces vins produits sur 27 communes, avec bien sûr une influence climatologique océanique, on s'en douterait. C'est quand même pas très très loin de l'océan Atlantique, mais également un côté tempéré. Vous savez que les fleuves, d'une façon générale, alors en particulier, tempèrent effectivement le climat et permet d'avoir des vins issus de différents types de cépages. Le plus célèbre, c'est le blanc d'Ancenis. En tout cas, c'est celui que moi je considère comme le plus intéressant, la fameuse Malvoisie des coteaux d'Ancenis, qui peut être soit vinifié en sec, soit même en moelleux, voire de temps en temps même un peu liquoreux, c'est-à-dire qu'on attend vraiment des vendanges extrêmement tardives, donc avec ce cépage malvoisie. On a du pinot gris, on a du chenin blanc pour les blancs, et pour les rouges, on a du gamay, qui est cépage extrêmement fruité, comme on le sait, mais on a également du cabernet franc, déjà ici, le bienvenu.
C'est, eh oui,
c'est
oui.
Sur le côté de la Loire, le plus à l'ouest des appellations qui produisent du cabernet franc. Après, on en trouve davantage dans le Saumurois, bien entendu, un peu du côté d'Angers et notamment du côté de l'Anjou-Brissac, qui est un très joli cru également, et puis bien sûr du côté de Chinon et dans le reste de la Loire.
Ça peut se garder tout ça, Philippe, ou pas? Alors, en blanc ou en rouge, ça dépend, non?
Alors, les blancs, et notamment les blancs moelleux, bien entendu, peuvent se garder un peu.
Oui.
C'est-à-dire qu'une dizaine d'années ne fait pas absolument
ans, quand
pas
même, oui.
Pour les moelleux, il n'y a pas de souci. Pour les rouges, et notamment lorsqu'ils sont issus de cabernet franc, il y a aussi un potentiel de garde plus important que sur les gamay. Sur les blancs de chenin, il y a un potentiel de garde qui est intéressant aussi. Au bout de... il faudrait quand même envisager les bords au maximum autour de 5-6 ans, même si on peut avoir de très jolies surprises, comme toujours. La bouteille que l'on retrouve 10 ans après, on se dit franchement, on a bien fait de l'oublier celle-là, parce qu'elle est juste parfaite au rendez-vous. Mais quand ils sont jeunes, sur le côté très, très floral, un petit peu agrume, avec une certaine acidité qui marque notamment lorsqu'ils sont élaborés à partir de chenin, c'est vraiment remarquable. Ça va très bien. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le style muscadet en termes de cépage. C'est pas le melon de Bourgogne. Mais l'ouverture sur les produits de la mer est évidente. Les huîtres, bien sûr, les coquillages, mais aussi les crustacés, lorsqu'on prend justement un petit peu d'âge, on a besoin d'un peu plus de matière, de densité. C'est le cas pour ces vins-là.
Quelques vignerons, Philippe ?
Et pour les rouges, ça va très très bien avec des viandes rôties, des charcuteries, etc. Enfin, il y a vraiment de très jolies choses. Quelques vignerons, le domaine de l'Écochère, le domaine du Haut-Frêne, le domaine de Cambuse, le domaine des Galoires, avec un petit coup de cœur pour ce domaine, le domaine de l'Enchantoir, et puis Piton Paillé, qui produit également des vins en Anjou, mais qui est également donc avec cette double casquette.
Combien ça coûte une bouteille pour terminer là?
Alors, les prix sont assez variables, moins de 10 euros souvent, globalement, et puis après sur des cuvées un peu particulières ou sur les liquoreux, on est plutôt au double.
Merci beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas à Paris, nous sommes place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Piau, puis le Vino Quiz, Hélène.
Oui, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question ce week-end. Quel est le nom du dernier livre de François Martin? Réponse A, le guide des grands crus classés de Champagne. Réponse B, le guide des petits crus classés de Bordeaux. Ou la réponse C, le guide des grands crus classés de Bordeaux. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Une vidéo sur Radio retrouve Sylvie Tonnerre, qui est la patronne de la rédaction de ce magazine Terre de Vin, excellent ouvrage, pour nous parler des 100 meilleures cartes de vin de France. 100, Sylvie ?
Oui, mais 100, c'est pas beaucoup.
Ah, mais c'est pas beaucoup, c'est beaucoup quand même, non ?
Mais non, parce qu'on part quand même d'un fichier de départ qui frise les 8000 cartes.
Ah, carrément, 8000 candidats, 100 élus.
Il nous faut des mois pour dépioter ces cartes, les noter.
Et ce sont que des restos, ce quoi, des bars à vin, c'est...
Alors, on a défini 6 catégories. Les bars à vin, alors d'abord les restaurants de chaîne, parce que c'est important aussi les restaurants de chaîne, il y a un travail qui est fait au niveau du vin qui est très intéressant et qui est sur des marges très, très, très,
très
petites,
faible.
Donc il faut être pointu, les bars à vin bien sûr, les brasseries et la bistronomie, les restaurants traditionnels, les restaurants gastronomiques et les gastronomiques de prestige. Voilà, donc on démarre en septembre avec ce fichier qui est proche des 8000, et puis par tri successif, on élimine.
Alors, juste pour comprendre, Sylvie, ce sont les gens qui candidatent, c'est vous qui les présélectionnez, comment ça se... Les 8000, ils sortent d'où ?
Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on travaille avec des fichiers qu'on a constitués, mais on a de plus en plus de candidatures.
Spontanées, quoi.
Spontanées, et aussi des candidatures qui reviennent chaque année. ce qui nous a amené cette année justement à décerner un prix de la meilleure progression, parce qu'on a vu une carte se construire d'année en année avec de l'intelligence, avec un objectif magnifique, et on a remis un prix de la meilleure progression.
Alors, les lauréats, citez-nous les 100 lauréats en 2 minutes. Non, je plaisante.
Ça va être difficile. J'aurais voulu d'abord parler des tendances, en fait, puisque maintenant, c'est notre 4e édition, donc on voit des tendances se dégager très rapidement. Toujours plus de vin en verre. Toujours plus. C'est vraiment intéressant, avec même des restaurants gastronomiques qui ont comme objectif de passer toutes leurs cartes en vin en verre. Donc, qui sait qui.
De laisser la potentialité, de laisser grâce à des systèmes comme Coravin, par exemple, ou autre.
Par exemple, avec le
Coravin. Beaucoup de marques se concentrent là-dessus parce que c'est un vrai marché.
C'est un vrai marché, et on a récompensé un établissement de Pornic dans la catégorie restaurant traditionnel qui nous a expliqué sa carte vraiment qui est fantastique, avec 80 muscadets à la carte.
80 muscadets à la carte ou ouvert aussi ?
À la carte et bientôt au vert.
Extraordinaire, quoi.
Voilà. Ah,
donc, et il faut aller voir le château de Barbe Bleue à Pornic.
Oui, il faut aussi s'arrêter déjeuner ou dîner au Marius, parce que là, il y a une équipe qui nous a vraiment bluffé. Donc, cette tendance du vin au vert. Et puis, deuxième tendance qu'on a pu remarquer et qui va très vite sur ces dernières années, c'est le développement de la mise en avant des vins bio, des vins labellisés, engagés dans une démarche, dirais-je, propre environnementale, avec de plus en plus des logos présents sur les cartes, l'explication des logos, de véritables parties prises de la part des sommeliers.
Et ça, selon vous, Sylvie, c'est le choix du restaurateur ou alors c'est la demande du client,
les deux. C'est les deux. Et je pense que le choix du restaurateur se fait toujours, bien sûr, par rapport à un rapport qualité-prix, à des accords avec sa cuisine, mais qu'il est obligé d'être à l'écoute de ses clients. C'est un partage, une relation. Il faut absolument être à l'écoute de ses clients dans ces métiers-là.
Autre tendance.
C'est les deux tendances dont je voulais parler, vraiment. Le développement du vin au vert et le développement de la présence des vins bio. Mais je vois le président de notre concours,
qui a envie de dire un mot. Le président cette année, un petit mot sur le parrain aussi de cet événement.
Alors, qui est le parrain ?
C'était Patrick Bruel.
C'était Patrick Bruel.
Que l'on salue, qui est un grand passionné et un grand connaisseur de vin. Donc, il y a une tendance aussi, Sylvie, que j'ai ressenti en analysant un peu les cartes et finalement en optant pour certains d'entre elles, c'est la volonté un peu locavore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de restaurants qui disent voilà les cartes des vignerons qui sont à proximité de mon établissement.
Ça,
moins de 50
km
par exemple de mon restaurant.
Ça, c'est l'exemple type.
Vous pouvez choisir autre chose, mais voilà cela.
Le Marius avec ses 80 muscadets différents.
Ou d'autres.
Parce qu'il est proche de ça.
Exactement, je pense à Michel Hermé qu'on salue avec le Wine Bar.
Parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains restaurants qui n'aiment pas les vins du coin.
Il y en a pas mal, c'est dommage. Et lui, il dit c'est des vins du coin. Si vous voulez goûter autre chose, j'en ai un peu. Mais ils sont du coin. Et ça, c'est aussi une tendance.
Oui. Alors, toujours des grands classiques, évidemment, dans ces cartes. Et puis, vraiment aussi une recherche sur toutes ces nouvelles tendances. Alors, dans nos 6 catégories, qui sont les gagnants ?
Le suspense, ça s'en comble. Je vois les dieux qui se mordent les dents, les ongles, tout là. Vous mordez tout là.
Ouais. Alors, en restaurant de chaîne, c'est La Boucherie qui a remporté le prix cette année avec ses 130 enseignes. Et un restaurant, une approche du vin de passionné qui nous a vraiment séduit. En bar à vin, alors, l'année dernière, très peu de Languedoc dans nos sélections. Oh. Et alors, cette année, le Languedoc est là en force. Donc, la meilleure carte de bar à vin, on la trouve à Montpellier, à L'Endroit. Et il y a vraiment un travail là qui est très intéressant. En brasserie et bistronomie, on reste en Languedoc. On va chez Michel Hermé avec le Wine Bar Le Cheval Blanc à Nîmes, au pied des arènes. On a adoré cette carte de 350 références, très condensée, très pointue.
Oui, mais c'est de la triche. C'est un des meilleurs sommeliers de ce pays. C'est de la triche.
Oui.
C'est de la triche. C'est de belles reconnaissances.
Oui, bien sûr, je plaisante. Très beau travail.
Et puis aussi reconnaissance de cette passion que Michel Hermé a pour pour les vins de sa région et d'ailleurs. Restaurant traditionnel, j'en ai bien parlé, le Marius à Pornic, avec une toute jeune équipe fabuleuse. Restaurant gastronomique, le Chapon Fin à Bordeaux. Et là, une équipe qui s'est renouvelée et une offre qui s'est renouvelée et qui, une carte très intéressante.
Et beaucoup, beaucoup de vins, justement, servis au verre.
Et beaucoup de vins servis au verre. Un
magnifique établissement. On salue d'ailleurs Sylvie Caz.
Et gastronomie de prestige, eh bien, on est parti en Alsace avec la table d'Olivier Nasty à Kaiserberg.
Kaisersberg.
Avec Jean-Baptiste Klein, le sommelier.
Dire,
hein,
très, très beau. Oui.
Que l'on salue.
Bah, bravo, en tout cas. Donc ça, c'est l'édition, c'est la quatrième édition.
C'est la quatrième édition qui ne se ferait pas sans nos partenaires.
Bien sûr.
Qui décernent eux aussi un prix. Donc le bureau interprofessionnel de l'Armagnac a décervé le prix de la meilleure carte de spiritueux. Et ça, on est à Nîmes, au SCAB, avec une équipe qui est dingue de spiritueux.
Le Gard.
Le Gard, voilà. Cartonne, quoi.
Le Gard cartonne.
Merci beaucoup, Sylvie Tenen. Et ça, c'est à lire dans Terre de Vin, c'est ça, pour tous les classements
Dans le prochain numéro.
Dans le prochain numéro, à ne pas manquer. Merci beaucoup, une vidéo sur Radio. Mmh. Retrouve le France Corbalance, sommelière et chanteuse lyrique. Vous sentez toujours bon, aujourd'hui aussi.
Mais je vais vous parler d'une innovation, Alain, qui va peut-être intéresser les professionnels du vin dans un cadre éducatif. Alors, une innovation, je vous rappelle, c'est utiliser une technologie qui existe déjà, mais dans un nouveau domaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Didier Catelin, qui travaille dans le domaine médical, et son fils Marc-Antoine ont conçu un diffuseur d'odeurs connecté baptisé ATI. Leur objectif était de stimuler la mémoire olfactive de leurs patients. Il y a plusieurs types de mémoire, hein, on le sait, et la mémoire olfactive est très importante. Mes collègues sommeliers seront d'accord avec moi, bien sûr. Cette machine ATI est capable de diffuser des odeurs de façon quasi instantanée à un ensemble de personnes qui vont percevoir ces odeurs en même temps. Le brevet a été déposé au niveau international et il y a eu 3 ans et demi de recherche et de développement. Alors, comment ça marche ? Il faut imaginer une sorte de petit ventilateur que vous avez vu tout à l'heure, qui pèse 3 kilos et qui est équipé de 30 cartouches tout autour qui contiennent de l'arôme liquide. Cet appareil est connecté à une tablette. On sélectionne l'odeur que l'on veut diffuser et cette odeur se dissipe très rapidement. La portée est de 3 mètres. La durée peut aller de 20 secondes à 8 minutes et elle se dissipe en une demi-seconde. Donc on peut passer d'une odeur à une autre sans qu'elle se gêne, en fait. Ce sont des flux d'air et l'odeur ne reste pas en suspension, c'est pour ça. Donc je cite Marc-Antoine qui dit « Ces odeurs sont des molécules naturelles créées par un sculpteur d'arômes dans le sud de la France. Elles ont une durée de vie entre 6 mois et 1 an et elles sont stabilisées. » Alors, dans quel but ?
Mais quel est le rapport avec le vin, d'ailleurs ?
Alors, justement...
C'est très bien comme truc, là, mais c'est... Si on veut partir en vacances avec l'odeur d'Hélène Pio, pof, après on passe celle de Philippe Forbach, in vino, non-stop, 24 sur 24, quoi.
Non, mais justement, l'innovation arrive à ce moment-là, c'est qu'ils se sont dit que le concept ATI pourrait être utile aux professionnels du vin dans un cadre éducatif. Il permettrait d'exercer le nez lors d'ateliers d'initiation à la dégustation, par exemple. Là, on parle de stimulation.
Donc, pour s'entraîner, vous dites ?
Pour s'entraîner. Il permettrait de faire travailler sous forme de jeu ou de cours magistral le sens olfactif à tout un groupe en même temps.
D'accord.
Sans être obligé de faire circuler, vous savez, les fameuses petites fioles.
Bien sûr.
Voilà,
c'est bien, ça, c'est bonnier.
C'est pas mal, enfin... C'est à tester. Hein. J'imagine aussi que ATI pourrait être utile dans le cadre d'un cours magistral. Par exemple, si on parle de l'odeur d'hydrocarbures d'un wrestling, on ne peut pas forcément comprendre ce que c'est.
Si on fait 8 minutes de pétrole, on a compris. Quoi.
Si on
n'a pas compris, c'est qu'on a vraiment un problème. Quoi.
Bon, voilà, si on diffuse la cartouche d'hydrocarbures dans l'air, de l'odeur d'hydrocarbures dans l'air, toute l'assemblée comprend. Simultanément. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc Marc-Antoine s'est rendu compte que dans les 30 odeurs qu'il propose, 20 correspondaient aux arômes du vin. Donc pourquoi pas ne pas continuer à développer ce concept ? Moi, je pose la question. Est-ce que...
Bon, est-ce que c'est une bonne idée ? Tiens, voilà. Faire tour de table. Sylvie Tenner, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que ça doit effectivement se tester, notamment pour la formation. Puis, il y a tous les niveaux, chez les
c'est
étudiants,
ça.
Mais aussi chez les professionnels.
Hélène Pio, vous qui sentez la fraise ?
Moi, c'est mon côté Saint-Thomas. Je veux tester d'abord avant
de
donner
la suite. Ah, ouais. Que... Non, mais vous avez raison. Vous n'avez pas une vie facile. Hein. C'est pas comme ça.
Absolument. Je ne dis pas oui du premier coup, comme ça. Oui. À la première senteur qui passe, plus celle de Georges Clounet. Voilà.
Philippe Forbach.
C'est un bel outil de formation. Hein.
Le nez est important dans la dégustation ou pas trop ?
Oui, bien sûr, parce que c'est une ouverture effectivement de reconnaissance, notamment des arômes, de la typicité du millésime, etc. Donc c'est un côté formateur qui est indéniable.
Florence, pour terminer, donc vous nous rappelez un peu le nom et le prix,
comment ça coûte? Bien sûr, Ati. Alors pour l'instant, il n'est pas à la vente.
Ah, il n'est pas à la vente.
En test justement.
Ati, c'est écrit comment ça?
A T H I. Ça, en fait, c'est le nom de l'éléphant dans le Livre de la Jungle.
Bah, c'est
une
bien
mémoire
sûr.
D'éléphant.
Nous, c'est plutôt Mowgli, voilà. Mais bon.
Alors, donc, si vous voulez prendre contact avec Marc-Antoine Catelin, il faut l'appeler au zéro. Enfin, voilà, plutôt lui écrire, excusez-moi, sur le site de Connectage. Connectage.
Oui, on se dépêche là.
Hop, à la rubrique Contact.
Merci beaucoup Florence Corbalan, merci également à vous Sylvie Tonnerre, Hélène Piau et Philippe Forbrach. Merci également à Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons chez le caviste Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.